Charles Renel, La race inconnue, conte malgache, le requin. Prosper d'Anthelme visitait sa cocoterie. La plantation avait 3 kilomètres de long sur 100 mètres de large. Les beaux arbres, aux troncs écailleux et luisants, au pelage vert, s'alignaient à 15 pas les uns des autres le long des grèves de l'océan Indien. La régularité de ces dignes monuments était interrompue en son milieu par un village Bersibaraka, tout en bambou, habité par les travailleurs de la concession. L'Anthelme, en revenant de sa tournée, s'y arrêta. Entre les dernières cases et la mer, quelques rochers perçaient la dune. À leurs pieds, à 10 mètres de l'eau salée, suintait une source. Elle était presque 100 mètres, à peine buvable. Mais les indigènes avaient pour elle une vénération superstitieuse. Une fois que l'Anthelme s'était rafraîchi les mains, il était accouru du village, l'avait supplié de faire ailleurs ses ablutions s'il ne voulait attirer sur eux les pires malheurs. Ce jour-là, il s'assit sur un rocher, non loin de la vasque, et regarda la mer. Au large, elle boutonnait, venait se briser en une longue barre blanche sur les récifs de corail. Puis, jusqu'à la côte, de molles ondulations la soulevaient d'un mouvement rythmique pour répandre sur le sable l'éternel flot de ses eaux frangées d'écume. Et l'Anthelme, depuis 10 ans qu'il était établi sur la côte, éprouvait tous les jours devant cette merveille bleue la même envie, jamais encore satisfaite, de prendre un bain. Aucun œil européen ne s'y hasardait à cause des requins. Ils pullulaient en ces parages. On en voyait de toutes les espèces, des noirs, d'autres d'un blanc laiteux, certains avec des ailerons blancs à extrémités noires, et les requins marteaux à tête plate, avec des yeux démesurés à fleur de peau. Les indigènes n'y faisaient pas grande attention. Beaucoup se baignaient sans manifester aucune peur. Ils entraient dans l'eau, certains jours, par village entier, pour la pêche au lambin à marée haute ou pour la pêche au filet à marée basse. Dans ces occasions, il n'y avait jamais d'accident, mais parfois on parlait d'hommes et de femmes isolés, enlevés ou mutilés par les squales. Dans la chaleur humide de cette matinée de décembre, en plein été tropical, la mer était particulièrement attirante. Prosper l'Anthelme, une fois de plus, rêvait aux délices interdits d'un bain. Il avait chaud et soif. Réunissant les deux mains en forme de coupe, il les plongea dans l'eau fraîche de la source, les approcha de ses lèvres, but l'eau vénérée des Bensimisi-Kataraka, lentement, la tête renversée en arrière, les doigts mal joints laissant tomber une pluie de gouttelettes. Et son geste simple ressemblait à un rite. À ce moment, on passa un de ces Antaimuru qui, de la province de Farafangana, s'en vont dans toutes les parties de l'île, s'engagent comme manœuvres, comme terrassiers, comme morpailleurs, et reviennent avec leurs économies acheter des bœufs ou des rizières dans leur coin de terre natale. Celui-ci arrivait du nord et sans doute rentrait chez lui avec un sac de piastres. Il avait fait une longue étape, les casses parmi les cocotiers avaient l'air accueillants, et il décida de s'arrêter. Mais avant de s'asseoir au foyer d'un autre, il voulut se purifier les souillures de la route. Il déposa sur le sable le long bambou aux deux extrémités duquel il avait équilibré son bagage, quitta son lamba, son salaka, et s'avança dans la mer à quelques mètres du rivage. Quand il eut de l'eau jusqu'aux genoux, il commença ses ablutions. La houle tantôt le découvrait jusqu'aux chevilles, tantôt l'immergeait jusqu'à mi-corps. Prosper Lanthelme admirait l'élégante silhouette bronzée qui, surgissant de la mer, se détachait sur l'horizon lumineux. Soudain, comme une vague plus forte que les autres s'enflait à la hauteur de sa poitrine, l'Antaïmohou s'engloutit en arrière et battit l'air de ses deux bras crispés comme pour s'accrocher au vide, en poussant un cri d'effroyable détresse. Il s'effondra dans l'eau, et la mer tout autour de lui se teignit de rouge. Quand la vague se retira, il n'y avait plus sur le sable qu'une moitié d'hommes. Le requin avait emporté le reste. Les gens du village, appelés par le cri d'agonie, enlevèrent les débris humains et allèrent l'ensevelir dans la partie la plus de la lande réservée aux étrangers, pendant que Lanthelme, béant d'horreur, muet d'horreur, contemplait la mer cruelle, pleine de monstres invisibles. L'après-midi, il revint, l'imagination montée par l'affreux spectacle, jusqu'au lieu où s'était passé le drame. Il s'assit sur la même pierre où il s'était reposé le matin et regarda la douce mer bleue aux molles ondulations pacifiques. Un vieux Betsimisaraka du village, qu'il connaissait bien, un des plus anciens travailleurs de sa concession, s'approcha de lui. « Eh bien, dit Lanthelme, il a été vite enlevé, l'Antaïmohou. Oh, vite enlevé, oui, Tumkupu. Tu as déjà vu ces accidents ? Autrefois, oui, Tumkupu. Vous entrez souvent dans la mer, vous autres, pour pêcher où vous l'avez ? Souvent, oui, Tumkupu. Et vous n'avez donc pas peur des requins ? Mais jamais le poisson sous le caille n'enlève un zafirandri s'il n'a pas violé les fadis. » Et sur les insistances de Lanthelme, le vieux Betsimisaraka lui raconta ceci. « Les anciens savent qu'il y a 10 générations d'hommes. Nosivarika était une île entourée de lagunes. L'eau recouvrait alors la large bande de sable où poussent maintenant les cocotiers. Mais notre village existait déjà à la même place qu'il occupe aujourd'hui. C'était 4 ou 5 pauvres cases de pêcheurs. Un jour, les hommes partirent en pleine mer dans 2 grandes pirogues pour aller, avec des lits et des harpons, pêcher les Tuluvuka au dos bleuâtre, les Fesutsi tachetés et le Sulukei à la chair savoureuse. Mais le mauvais temps les surprit loin de la côte. Pendant 2 nuits et 2 jours, ils furent entraînés vers le nord. À la fin, le grand vent qui tourne fit chavirer leur pirogue et tous se noyèrent, sauf Raisi Mamutu, mon ancêtre. Il fut porté par les vagues jusqu'à une île déserte entourée de récifs. Longtemps il se lamenta à cause de la mort qu'il attendait et du triste sort de ses compagnons. Il pleurait sur la plage et regardait vers l'ouest pour voir si au loin il ne découvrirait pas la terre. Mais il n'apercevait rien que l'eau salée. Puis, comme il avait faim, il attrapa des crabes qui couraient çà et là sur le sable et dans les flaques des crevettes brunes à longues pinces. Le matin, il grimpait en haut de l'îlot pour boire dans le creux des rochers l'eau saumâtre déposée par le brouillard nocturne. Il vécut ainsi plusieurs jours. Pourtant, les privations et le chagrin l'épuisaient. Il sentait peu à peu ses forces décroître. Et un soir qu'il pêchait, un énorme Sulukai arriva jusqu'auprès de lui dans le volute d'une vague et dit « Hé, qui es-tu et que fais-tu tout seul dans cette île, homme de la grande terre ?»« Bien, je suis l'Atsimamutu de Nusikavarika, là-bas dans le sud. Ma pirogue a été brisée par le grand vent qui tourne maintenant. » Comment pourrais-je sortir d'ici pour m'en retourner vers les miens ? Mais qu'à cela ne tienne, dit le poisson Sulukai. D'ici, nous y va Rivaka, l'eau sacrée est longue à franchir, mais forte son ménageoire, large est mon dos. Ramasse beaucoup de crabes pour te nourrir. Construis sur moi une petite case en roseau. Je te ramènerai jusqu'à ton village. Mon ancêtre obéit. Et quand la case fut prête sur le dos du requin, il s'accroupit dedans. Le poisson fila vers le sud et nagea pendant 2 jours et 2 nuits. Puis ils arrivèrent à Nusivarika. L'homme rassembla tous ses parents pour leur raconter comment il avait eu la vie sauve. Les habitants du village firent de grandes pêches au bord de la mer. Tous les poissons qu'ils prirent, ils les donnèrent aux Sulukai pour les manger. Ils nourrirent ainsi pendant une lune entière le sauveur de leurs parents. Ensuite, le requin s'apprêtait de regagner les profondeurs de la mer, mais avant de quitter la plage de Nusivarika, il parla en ces termes. « Que maudit soit et que meure celui de mes enfants qui mangera les descendants de cet homme. » Puis il enfonça une de ses nageoires sur le bord de l'île, au pied du rocher où tu es maintenant, assis, Vasara, et qui en ce temps-là était baigné par la mer. Et à l'endroit où il avait enfoncé sa nageoire, coula une source. C'est la fontaine qui est ici, près de toi. « Si vous buvez de cette eau, dit-il encore, jamais les Sulukai ne vous mangeront. » Et il plongea dans la mer pour gagner les récifs. Mon ancêtre, Rasimamutu, dit à son tour devant ses parents rassemblés, « Que maudit soit et que meure, dévoré par les Sulukai, celui qui pêchera ou qui mangera les descendants de ce poisson. » Voilà pourquoi les gens de Nusivarika ne tuent pas les requins, et pourquoi les requins ne dévorent jamais, à moins qu'ils n'aient violé le fadi, les hommes de ma race, à cause de ce qui s'est passé jadis entre le Sulukai et mon ancêtre Ratsimamutu. Prosper Lantelme admira la naïveté des Malgaches, qui osaient, sur la foi de pareilles légendes, affronter les requins. Puis il réfléchit scientifiquement aux chances qu'on avait d'être dévoré. Il les jugea si faibles qu'autant valait n'en pas tenir compte. Ainsi la sagesse de ces peuplades primitives se trouvait d'accord avec le calcul des probabilités. De plus, les indigènes attribuaient toujours à la violation de quelque fadi l'accident qui, de loin en loin, pouvait se produire. Ils conservaient ainsi leur belle tranquillité et leur mépris des dangers de la mer. L'envie irrésistible de se baigner hantait l'Anthelme de plus en plus. En entrant dans l'eau Kamikor, la rencontre d'un requin était presque invraisemblable. Faudrait un concours de circonstances extraordinaires, qui aurait d'autant moins de chances de se reproduire qu'il avait eu lieu la veille. 1000 fois des Betsimiranaka de Nusivarika avaient commis au même endroit, en face de leur village, la même imprudence l'Antaimuru, sans que la vague eût apporté de requin. 1000 fois encore, après la mort de l'étranger, la légende de l'Atsimamutu allait se trouver confirmée. Le lendemain donc, l'Anthelme vint au même endroit, se débarrassa de ses habits et, sans hésitation, entra dans la mer jusqu'à mi-corps. Il s'ébroua, fit jaillir l'eau tout autour de lui, revint en arrière pour se rouler sur le sable dans la vague presque tiède. Au bout de 5 minutes, il dit là, ce premier bain, c'est long. Malgré lui, l'idée fixe des monstres qui pullulaient là-bas près des récifs de corail hantait son imagination. Il ne pouvait se défendre de scruter avec quelque terreur les vagues troubles qui montaient vers la plage. Soudain, comme il allait se retourner pour gagner le sable sec, il vit une masse noirâtre qui glissait obliquement de son côté. C'était le requin. À 1 mètre de lui, il y eut un remous. Un aileron noir et luisant sortit de l'écume. Puis la chose, sombre et fuselée, vira soudain. Venue avec le flux, elle disparut avec le reflux de la vague dans les clartés glauques de la houle. Alors Prosper d'Anthelme s'évada de la mer cruelle pour une foi miséricordieuse. Plus jamais il n'osa s'y baigner. Quoi qu'il eût bu dans la source l'eau du poisson Soukai sur la lointaine grive australe au pied des cocotiers.